Figaro Radio.
Le club, le Figaro Politique.
Yves Tréhard.
Le club, le Figaro Politique, bienvenue. Oui, je sais, ça fait longtemps. Et on va discuter. On va discuter ardemment, avec passion et ferveur, mais intelligemment, des européennes. On a, comme d'habitude, trois thèmes. Le premier thème, eh bien, est-ce que le gouvernement, est-ce que le pouvoir exécutif s'expose plus que jamais à une motion de censure, notamment du Parti Les Républicains? Le Parti Les Républicains et son patron y réfléchissent sérieusement, paraît-il. Édouard Philippe, il continue son petit bonhomme de chemin en route pour 2027. Est-ce que vraiment il peut être sûr d'être le successeur d'Emmanuel Macron, en tous les cas sur le papier? Eh bien, on le verra. En tous les cas, il multiplie les déclarations de plus en plus actives pour l'échéance présidentielle. Et puis, la troisième question, elle tournera autour de deux acteurs de cette campagne des européennes, Raphaël Glucksmann et puis François-Xavier Bellamy. Est-ce qu'on assiste avec eux au retour de ce fameux clivage gauche-droite dont on avait un peu oublié la pertinence? Est-ce que, en tous les cas, Bellamy le soutient? Est-ce que ça revient à la faveur de cette élection européenne? On est parti pour 52 minutes de débat et heureux de vous retrouver. Avec le directeur de la rédaction du Figaro.fr, Jacques-Olivier Martin, bonjour.
Bonjour Yves.
Avec Christine Ducrot, qui est la responsable, la grande chef du service politique du Figaro, avec Paul Lobaché, qui travaille d'ailleurs avec Christine et qui a des lumières plus particulièrement étincelantes sur la droite de notre échiquier politique. Et puis un visage que vous connaissez bien, une voix que vous connaissez bien, une expertise singulière en politique, Pierre Giacometti, qui est aujourd'hui fondateur et président de l'agence NoCom. Alors, première question, est-ce que le gouvernement s'expose plus que jamais, chère Christine, à une motion de censure? On va voir un peu les conséquences que ça pourrait avoir. On sait que Éric Ciotti, samedi, dans une interview donnée à notre confrère du Parisien, a dit que c'était absolument possible, plus que jamais.
Oui, alors il a dit que c'était possible, et ce n'est pas la première fois qu'il dit que c'est possible. C'est donc pour ça qu'on s'interroge un peu sur la capacité des Républicains d'aller jusqu'au bout d'une motion de censure, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils en parlent, et on se dit, est-ce que cette fois va réellement être la bonne, et est-ce qu'ils vont vraiment oser aller jusqu'au bout? Parce qu'une fois qu'on a parlé de motion de censure, il faut se dire jusqu'où ça peut aller. Une motion de censure, ça peut entraîner une dissolution, et que les Républicains ont-ils à attendre, et que peuvent-ils espérer d'une dissolution, sachant qu'aujourd'hui ils sont quand même à une portion assez congrue de l'électorat? Est-ce qu'ils auraient quelque chose à y gagner? Est-ce qu'en fait ça vaut vraiment le coup? C'est pas une obligation qu'il y ait des solutions derrière une motion de censure, mais en tout cas, on a un peu l'impression qu'Éric Ciotti joue avec une arme atomique, c'est l'arme de dissuasion, et est-ce qu'il va appuyer sur le bouton ou pas? Et surtout, quand peut-il appuyer sur le bouton? Est-ce que c'est maintenant avant les européennes? Est-ce que c'est après les européennes? Est-ce que ce sera lors d'un budget rectificatif à l'automne? Ça, c'est bien compliqué, et puis il faut qu'il trouve des alliés quand même, parce qu'il a 68 députés, manifestement, il en a 62, il faut 58 députés pour déposer une motion de censure, et il ne les aurait pas dans son groupe en ce moment.
Il les aurait pas?
Non.
Il faut que ça, pour être recevable, 58 députés,
ouais.
Et aujourd'hui le groupe LR en compte 62.
Oui.
Ça serait sur des sujets économiques notamment, hein, Jacques-Olivier, c'est votre parti ça, l'économie, sur les finances publiques notamment, parce que les finances publiques ne sont pas tenues, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, absolument, le déficit public est abyssal, plus de 150 milliards d'euros, la dette, on n'en parle pas. Moi, je crois, que, peut-être à la différence de Christine, que c'est un sujet, en tout cas le déficit, ou en tout cas toute cette partie économique, qui pourrait peut-être réunir, si on arrivait à avoir ce type de texte, ça pourrait réunir finalement une majorité, parce que le déficit, ou en tout cas l'état des finances publiques, c'est un sujet finalement qui n'est pas ultra clivant. C'est aujourd'hui moins clivant que certains sujets de société. Donc je pense qu'on pourrait réunir une population un peu plus grande, en tout cas de députés, sur ce sujet-là. Ensuite, c'est tentant, parce que c'est l'économie, et l'économie, c'est les galons, c'est les étoiles du général Macron. C'est là où on le pensait imbattable, le faire tomber, ou en tout cas le mettre en difficulté sur ce sujet-là. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de monde qui pourrait avoir cette envie. Bon, voilà, donc voilà pourquoi moi je pense que s'il y avait une fenêtre, en tout cas c'est peut-être autour de l'économie qu'on pourrait tenter effectivement ce genre de motion.
Alors, la chose, Pierre, c'est que, bon, bah, comme le dit Christine, c'est bien gentil tout ça, faire tomber le gouvernement, pourquoi pas. D'abord, il faudrait qu'il y ait une majorité, il faudrait que tout le monde, toutes les oppositions se réunissent, ce qui s'est jamais produit jusqu'à présent, première chose. Puis deuxième chose, les Républicains qui seraient le moteur du réacteur, certes, mais ils ne sont pas sûrs de revenir plus nombreux à l'Assemblée nationale.
La dernière motion de censure, elle date d'un peu plus d'un an.
Ouais.
Elle avait échoué à 9 voix près.
Ouais.
Aujourd'hui, compte tenu du sujet, ça a été rappelé, compte tenu de l'équilibre politique, il est probable qu'on soit beaucoup mieux armé, qu'il soit beaucoup mieux armé pour obtenir un résultat positif sur cette motion de censure. Donc on sent bien que la question clé, c'est pour ça qu'à la question que vous posez, est-ce qu'on est proche d'une motion de censure ? Je pense qu'on y est cette année. Mais quand je dis cette année, la vraie question, c'est moins sur le principe, parce que je crois que les Républicains sont majoritairement assez d'accord, et notamment Laurent Wauquiez, pour y aller. La question, c'est de savoir quand.
Quand.
Et la question du quand, là, crée visiblement du débat en interne. Ceux qui privilégient d'y aller le plus vite possible, avant même les élections européennes, c'est pour user de cette opportunité de débat qui peut être d'ailleurs alimentée par les décisions des agences de notation qui interviendront entre fin avril et fin mai. On sait par ailleurs que si cette date est choisie par les Républicains, il y a quand même assez peu de chances. Avec Emmanuel Macron, le peu de chance, c'est toujours un tout petit peu. On peut être confronté à des décisions imprévisibles. Mais c'est compliqué d'imaginer des élections législatives anticipées à quelques semaines des Jeux Olympiques.
Ouais.
On ne l'imagine pas facilement.
Ouais.
Donc ça veut dire que ce serait à ce moment-là, il faut vraiment l'expliquer aux téléspectateurs, à ce moment-là, la question pour le président de la République, c'est de choisir une alternative avec ou sans Attal Premier ministre, mais avec une garantie de pouvoir constituer une majorité. À ce moment-là, ça nous rapproche d'un scénario où les Républicains seraient éventuellement une force d'appoint, certains d'entre eux, favorables à un rapprochement avec Emmanuel Macron. C'est loin d'être le cas pour la majorité. Et à ce moment-là, créer les conditions d'une majorité peut-être précaire. Le scénario de l'après, c'est-à-dire attendre l'été, attendre un vrai débat de fond sur la loi de finances et créer les conditions d'un débat qui justifierait pleinement une motion de censure, provoquer une motion de censure, la gagner, là, on est dans un espace politique où peut-être que certains ont intérêt à voir une dissolution précipitée, une éventuelle arrivée du Rassemblement national au pouvoir dans une cohabitation pour les tester un petit peu, hein, les tester aux affaires. Il y en a beaucoup qui ont intérêt à ça, notamment Laurent Wauquiez, probablement les macronistes qui aimeraient bien que Macron ne soit pas le seul macroniste de l'histoire, mais qu'il y ait un successeur. Voilà.
Oui, ça c'est vrai, Paul, ça serait peut-être, contrairement à ce qu'on croit, un coup dur pour le Rassemblement national.
Bah oui.
S'il y avait dissolution.
S'il y avait dissolution, s'il y avait une campagne législative victorieuse pour Marine Le Pen et Jordan Bardella, déjà, est-ce que Jordan Bardella irait à Matignon ou pas si le RN arrivait en tête et majoritairement en tête dans la majorité des circonscriptions et il y a une règle pour l'instant dans la Ve République, c'est que jamais un Premier ministre en fonction ou un parti a pu, en tout cas, arriver à conquérir le pouvoir à la prochaine élection présidentielle.
Alors là, ils sont deux sur le coup. Hein.
Ils sont deux, quand même. Mais bon, ce que fera Bardella ou pas aura des répercussions sur Marine Le Pen. Ensuite, c'est l'exercice du pouvoir. Est-ce que le programme que porte le RN, une fois au pouvoir, est entièrement applicable, est efficace, sachant qu'il y aura du coup 3 ans pour prouver une pratique du pouvoir exemplaire, comme elle le dit, parce qu'elle, en plus, Marine Le Pen aujourd'hui et Bardella surfent sur une vertu politique que n'aurait pas le camp d'en face, sur la pratique du pouvoir, sur le respect de leurs électeurs. Il y aura aussi des conséquences qu'ils vont devoir gérer imprévisibles, la réaction des marchés, la réaction des partenaires européens, qu'est-ce qui peut se passer aussi ailleurs dans le monde. Donc, ils vont entrer, plutôt que prévu, le RN, s'il y a une dissolution, s'ils ont une campagne victorieuse, dans des turbulences politiques qu'ils ne peuvent peut-être pas aujourd'hui gérer.
Parce que si jamais il y a dissolution et des élections législatives, d'après vous, ils emportent une majorité.
Il y a eu un sondage récemment qui montrait qu'il y avait potentiellement une majorité accessible pour le RN, ce qui n'est pas le cas.
Voilà. Relative, pas
relative,
absolue.
En plus.
C'est trop tôt, ce serait trop tôt aujourd'hui de scénariser une majorité absolue, ou alors ça voudrait dire un espèce de raz-de-marée aujourd'hui imprévisible. Mais majorité relative, c'est tout à fait un scénario plausible compte tenu du niveau actuel du RN dans l'opinion.
Alors, dans ces conditions-là, est-ce que l'hypothèse qu'émettait Pierre, c'est-à-dire d'une espèce de coalition entre le Parti des Républicains et le gouvernement, enfin et l'exécutif, serait envisageable pour éviter la dissolution ?
C'est toujours envisageable. Emmanuel Macron a cherché depuis le début, en fait, ouais. et a tendu la main à plusieurs reprises.
Depuis le deuxième mandat, hein.
Oui, tout à fait. Jusque-là, en fait, les Républicains n'en ont pas voulu, ni Éric Ciotti, ni encore moins Olivier Marleix, le président du groupe à l'Assemblée nationale. Personne jusque-là n'a voulu, ni même Gérard Larcher, qui est quand même assez dur et beaucoup plus dur durant le second mandat que durant le premier à l'égard du président de la République. C'est pour ça qu'on parle de nouvelles figures à nouveau, mais qui ne sont pas tellement de nouvelles figures. On commence à réentendre le nom de François Baroin, par exemple. François Baroin, oui. On n'en a pas entendu parler, effectivement. C'est des gens plus centristes,
plus souples. Pour revenir de Troyes.
Voilà. Mais chaque fois, en fait, on ressort son nom et puis il ne se passe rien derrière François Baroin ou d'autres. Mais en tout cas, il faudrait plutôt aller chercher, certainement, auprès de gens un peu moins durs que ce que l'ont été les Républicains ces derniers.
Alors, on va en écouter certains là, qui parlent. Et qu'on a entendu ces derniers temps.
Ça avait déjà été évoqué au moment du projet de loi de finances, au moment du 49-3.
Mais ça n'a pas abouti.
Je pense que... Éric Ciotti, quelqu'un de réfléchi, donc s'il l'a dit, c'est qu'il est prêt à appuyer sur la détente. Autrement, on ne brandit pas une arme.
C'est-à-dire que les Républicains prendraient le risque de perdre les 60 députés qu'ils
peut-être,
ont.
Peut-être, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est quand même très grave.
Les Républicains pourraient déposer une motion de censure. Est-ce que vous la voteriez avec les LR? Est-ce que vous dites il faut la faire avant les européennes pour clarifier la situation?
Mais bien sûr, parce que nous la voterons, évidemment. Nous sommes dans une situation d'urgence. La situation des comptes publics est très grave. Nous avons fait une réunion avec M. Le Maire, M. Cazeneuve à Bercy, soi-disant pour voir les économies. Ils n'ont présenté aucune économie au parti de l'opposition.
Alors, est-ce que c'est de la stratégie ou est-ce que c'est du fond, tout ça ?
Sur la partie...
Sur la motion de censure.
Moi, je pense qu'il y a une opportunité. Et donc, je pense que... Il y a du fond, absolument.
Oui, il y a du fond.
Ouais.
Parce que ça fait quand même, il faut le rappeler, 50 ans qu'on n'a pas voté un budget à l'équilibre. Hein.
Exactement.
Donc, ce qu'on reproche à Emmanuel Macron, on pourrait le reprocher à tous ses prédécesseurs.
Ah, il est absolument clair que si on changeait de pouvoir de majorité, les déficits...
Ça ne changerait rien.
Ça ne changerait absolument rien. Alors, quel risque on peut avoir ? C'est-à-dire, comment on s'attaque finalement au problème du déficit ? Là, il y a deux écoles qui vont s'opposer. Il y a une école des économies, ce que notamment la droite défend, ce que défend Bruno Le Maire. Et j'ai envie de dire, dans les deux cas, personne ne les a mises en œuvre. Donc on ne les voit pas, ces économies. Après, il y a cette idée d'augmenter les impôts. C'est une goutte d'eau face à un océan. Si on fait une nouvelle taxe sur les super-profits, on va gagner 2-3 milliards. On parle de 150 milliards juste sur l'année 2023. Donc, c'est une toute autre... C'est plus de la politique je pense qu'on ne peut pas envisager aujourd'hui une résorption rapide des déficits. La solution, c'est certes d'engager des économies. Moi, je n'ai pas l'impression que le Rassemblement national dont on parlait soit très engagé dans cette voie.
Même s'il en parle maintenant, ce qui n'était pas le cas par le passé.
Il y a des économies, mais c'est celle du programme présidentiel de Marine Le Pen, c'est-à-dire sur l'immigration, sur la fraude fiscale et sociale.
Ce qui ne veut rien dire.
Et surtout sociale plutôt que fiscale, d'ailleurs. C'est ça aussi une ambiguïté du RN. Mais c'est des gouttes d'eau, comme vous dites, sur le fonctionnement du budget de l'État. Ce qui est intéressant pour le RN sur ce débat-là, c'est la crédibilité que ça peut lui apporter. C'est-à-dire qu'en engageant un débat, parce que ce n'est pas du tout la matière forte de Marine Le Pen, l'économie, ni d'ailleurs du RN, de base. C'est plus la sécurité, l'immigration, voilà. En engageant ce débat-là, cette confrontation-là, sur ce sujet-là, sur le sujet du déficit avec Emmanuel Macron, elle veut montrer que le camp macroniste, le camp hypercentre, est en fait déficient et inefficace sur l'économie, et que ça peut rejaillir sur elle et convaincre des électeurs de droite qu'elle est capable, elle, de mener la barque. Voilà pourquoi elle prend le risque d'aller se confronter sur ce sujet-là.
Ouais, j'aimerais juste ajouter, on a un sentiment d'impasse sur ce sujet. On voit que les impôts, ce n'est pas une solution suffisante à la hauteur du problème. Les économies, on ne les engage pas. Et donc le pari macronien consistait à dire, je vais créer des emplois faire les gens travailler plus, créer des emplois, créer de la croissance, et grâce à la croissance, on aura des rentrées fiscales supplémentaires qui vont faire que finalement, on va pouvoir mécaniquement, par la croissance, améliorer la situation des finances publiques. Tous ces leviers, finalement, depuis quelques années, ne fonctionnent pas. Donc, c'est aussi ça, cette situation paradoxale. Je ne sais pas quel est l'état d'esprit des Français face à ça, mais est-ce que quelqu'un a le sentiment aujourd'hui qu'on pourrait résoudre cette équation financière? Moi, je ne sais pas.
C'est un bateau ivre, plutôt.
Il y a vraiment pour LR une question qui est posée à travers ce débat sur la motion de censure de restauration d'une forme de légitimité politique.
Ouais,
ouais. LR, depuis quelques années, a perdu le leadership de l'opposition au profit du Rassemblement national. Et c'est clair qu'une des fonctions d'un parti d'opposition, c'est de pouvoir faire tomber un gouvernement quand il en a la possibilité. Quand vous n'êtes même plus capable, quand vous faites de la figuration et que plus personne ne s'intéresse à ce que vous faites comme opposant, le risque, c'est la mort, c'est la disparition du paysage. Donc, gagner une bataille de motion de censure, que ce soit maintenant ou plus tard dans le courant de l'année, c'est une façon de montrer que LR est toujours là, présent. Et le deuxième sujet, effectivement, c'est le sujet de la crédibilité économique, de la légitimité économique. Pendant plusieurs années, on a pensé que le point fort d'Emmanuel Macron, c'était le sujet de l'économie, les chiffres favorables en matière de chômage, etc. Et aujourd'hui, ce qui prive LR d'un retour de crédibilité sur la scène politique, c'est justement d'avoir à sa gauche un centre-droit qui semblait capable et absolument incontournable sur le plan économique. Donc pour LR, mettant ce sujet au centre du jeu, c'est une façon de dire les seuls maintenant sérieux sur le sujet de l'économie et des finances publiques. On sait que le RN a quelques limites de crédibilité dans ce domaine. Les macronistes viennent de démontrer qu'ils n'avaient pas le monopole de cette légitimité. Donc il y a quand même beaucoup de raisons qui militent en faveur d'un choix politique, d'une motion de censure pour les Républicains.
Alors, on va faire un petit pari. D'ici à la fin de l'année, pour vous, Pierre, il y aura une motion de censure?
Oui.
Paul? Oui. Christine?
Si oui, à l'automne.
Si oui, à l'automne. Après les Jeux Olympiques, donc.
Oui, au moment du débat budgétaire.
Oui.
Moi, je partage l'analyse de...
Bon, ça fait quand même 4, hein. Donc,
Vous ne nous avez pas interrogé sur le timing.
Ah oui, le timing.
Moi, je pense que ça peut être plutôt prévu.
Ah.
Oui, pour se protéger de la dissolution.
Effet de surprise. Ah oui,
dans
d'accord.
Dans un premier temps.
Dans un premier temps, d'accord.
Sur le timing, il faut compter sur Liotte aussi, qui peut en déposer une.
Oui.
Qui peut accélérer le timing. Parce que,
alors Liotte, c'est ce petit groupe.
C'est ce petit groupe technique.
Hein,
et il y a une figure dans ce groupe technique qui se veut parangon du budget, c'est Charles de Courson.
Charles de Courson,
qui a fait aussi une interview il n'y a pas très longtemps, disant que lui, il voulait aussi déposer une motion de censure. Et qui donc pourrait accélérer le calendrier, sachant que, en fait, dans ce jeu de motion de censure, ce n'est ni le premier parti d'opposition qui est capable de fédérer autour de lui tous les votes, ce n'est pas le deuxième parti d'opposition, LFI, qui ne peut pas non plus fédérer autour de lui tous les votes, mais ce sont donc les plus petits groupes, comme LR ou Liotte, qui sont en fait les plus petits dénominateurs communs, qui sont capables à eux de ramasser le plus de votes pour cette motion de censure.
Donc à mon avis, il y a deux avant l'été, deux après l'été. Voilà. Mais en tous les cas, il y aura une motion de censure. Bon, bah, je pense que là, vous voyez, vous avez bien fait de venir, chers téléspectateurs.
Tu peux nous départager, toi.
Je suis persuadé que l'année s'annonce agitée. Alors il y a un deuxième point sur lequel je voulais qu'on aborde aujourd'hui, c'est celui d'Édouard Philippe. Édouard Philippe, qui, comme vous le savez, n'est plus aux affaires depuis maintenant 4-5 ans. Et qui a quand même de grandes ambitions. Est-il le meilleur successeur d'Emmanuel Macron? Alors pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a des sondages réguliers qui montrent qu'il est quand même une des figures principales du paysage politique aujourd'hui, mais que si on parle du successeur, Gabriel Attal lui fait quand même pas mal d'ombre. Pierre, est-ce que d'après vous, il peut encore tenir comme ça pendant 3 ans et finalement arriver au bout du chemin?
La formulation de votre question est presque étrange, parce que vous semblez indiquer que le successeur ne serait que venant des rangs d'Emmanuel Macron. Est-il le successeur idéal?
De son
candidat.
Camp. De son camp.
Candidat à la succession.
Bien sûr.
Candidat à la succession, il l'est inévitablement. Mais on le voit bien, les enquêtes d'opinion aujourd'hui, on est très très loin de cette échéance. Vous imaginez en plus, compte tenu de ce qu'on a dit précédemment sur les scénarios d'une dissolution, de tout ce qui peut se passer, les cartes seraient évidemment complètement retournées. Aujourd'hui, dans les enquêtes d'opinion, moi je dirais, même vos confrères hier du journal du dimanche faisaient une une sur un sondage qui laissait penser que Attal était au-dessus d'Edouard Philippe. en réalité, il y a très peu de différence. Ouais. Ils sont à peu près au même niveau. Même Bruno Le Maire n'est pas si loin que ça. Donc moi, je trouve qu'aujourd'hui,
Darmanin non plus, d'ailleurs.
Les trois, un tout petit peu plus décalés. Mais grosso modo, aujourd'hui, dans le paysage de la droite macroniste, moi, je dirais vraiment match nul. Tout le monde est dans une situation de potentiel significatif de par la légitimité de leur fonction actuelle pour Attal ou passée pour Édouard Philippe et la longévité de Bruno Le Maire à Bercy. Je pense que la capacité qu'ont les Français à départager ces trois personnalités, voire quatre, elle viendra le moment venu, mais plutôt dans la dernière ligne droite. Ce qui est intéressant pour moi, c'est plutôt le mode de procédure qui sera choisi.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, si ce sont les enquêtes d'opinion, on aimerait savoir quel sera le critère de l'enquête d'opinion le plus légitime. Est-ce que c'est le choix de l'électorat de Renaissance ? Est-ce que c'est l'ensemble de la droite, on va l'appeler modéré ? Est-ce que ce sont l'ensemble des Français qui seraient ceux qui seraient pris à témoin pour désigner ou favoriser la désignation ? Et une fois que les sondages auraient fait leur travail, encore faut-il que les autres candidats, plutôt en retrait, acceptent le jeu des sondages. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si vraiment il y avait une primaire, une nouvelle primaire, cette fois non plus chez PS et LR, mais du côté de Renaissance, je pense que ça créerait aussi probablement beaucoup de débats internes sur la légitimité de cette procédure, compte tenu de ce que l'on sait des limites qu'elles ont proposées aux Français ces dernières années.
Surtout, Christine, que quand on parle d'axe central, bon, il y a les quelques noms que Pierre a égrenés, là. Mais en fait, si on parle de l'axe central, il faut y ajouter, à droite, Wauquiez...
David Lisnard, par exemple.
Et à gauche, peut-être Cazeneuve, ou je ne sais pas qui. Hein.
Oui, oui, absolument. En fait.
Donc ça fait du monde hein, le bourg.
Ça fait du monde qui va, en gros, du centre droit.
Centre-gauche.
Voilà, à Glucksmann, en gros, aujourd'hui. Donc effectivement, il y a pas mal de monde. Et en plus, Édouard Philippe a quand même un problème. Là, cette semaine, il y avait un problème à l'hôtel de ville du Havre, puisqu'il y a une enquête qui a été ouverte avec un abus de bien social. Bon, on ne sait pas très bien ce qui va sortir de cette enquête-là, mais c'est quand même quelque chose qui le plombe un peu au moment de son meeting, là, ce week-end. À Besançon, où en fait il n'avait pas vraiment besoin de ça pour entrer en scène et pour participer aux européennes. Donc on voit bien que ce n'est pas facile et qu'il va falloir qu'il meuble jusqu'en 2027, en tout cas pour exister. Les autres, tant qu'ils sont dans l'arène politique et tant qu'ils sont ministres, ils existent, en bien ou en mal, mais en tout cas on les voit. Lui, il faut qu'il se donne un peu un mal de chien pour exister. Et si en plus il est plombé par une affaire pas très claire, j'en sais rien, à la mairie du Havre, ça peut compliquer un peu ses affaires.
On va l'écouter, tiens, l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe.
Pour moi, le seul enjeu national véritable, c'est de voir, à mi-mandat, combien pèse le bloc central dans le paysage politique. À combien se situent globalement les partis qui revendiquent l'économie de marché, la démocratie libérale et l'engagement pro-européen. De la droite conservatrice à la social-démocratie.
Donc, l'éventail est large, hein, Jacques-Olivier. Vous le voyez jouer un rôle ?
Oui, alors moi, je suis à moins dans mon domaine de compétences, parce que l'on est vraiment en train de parler de politique. Moi, j'ai le sentiment, je regardais ce sondage du JDD, qu'il a une image plus forte que celle d'Attal, finalement, à droite. Est-ce que son avenir politique...
Mais il vient de la droite, d'ailleurs, et Attal vient de la gauche. Hein.
Est-ce que son avenir politique ne dépend pas, finalement, aussi des Républicains ? S'ils sont incapables de sortir quelqu'un, est-ce que ça ne va pas favoriser la piste Édouard Philippe ? C'est un peu la question que je me pose. J'ai le sentiment, on va en parler dans le sujet qui suit, mais peut-être qu'en tout cas, il y a une partie des gens de gauche de Renaissance qui sont en train de partir, peut-être en partie vers le Parti Socialiste et Glucksmann. Alors il va peut-être y avoir son avenir va peut-être dépendre finalement de la capacité du parti assez classique de gauche et classique de droite dans les mois ou dans les années qui viennent. C'est peut-être ça ce que je me dis par rapport aux autres. Moi j'ai l'impression que Bruno Le Maire qui s'est fait tacler assez sévèrement par le chef de l'État qui lui a dit disons t'es là depuis 7 ans à propos de la situation économique. J'ai l'impression que le fait d'être aux affaires depuis si longtemps, dans une situation économique dégradée, ça ne va pas être simple pour lui. Pour Darmanin, je ne sais pas vraiment. Et Attal au pouvoir, pendant, s'il n'y a pas de dissolution, pendant 1 an, 2 ans de plus, risque finalement d'en pâtir peut-être aussi. Donc voilà, moi, tout dépend peut-être des Républicains pour notre ancien Premier ministre, je ne sais pas.
Ça serait un adversaire souhaité pour Marine Le Pen ?
Alors Marine Le Pen, elle aimerait bien vraiment se battre contre Édouard Philippe.
Ah, alors pourquoi ?
Pour plusieurs raisons. Elle estime, c'est son avis, hein, elle estime que si elle fait campagne contre Philippe, ce sera une campagne fair-play. Il n'y aura pas le bruit des bottes, comme elle dit, la diabolisation express qu'elle peut avoir, les attaques en nazification, ce genre de choses. Donc elle estime que ce sera un débat projet contre projet, ce sera un duel.
Un homme bien élevé, quoi.
Un homme bien élevé, elle sera bien élevée aussi, et donc du coup, il y aura un choix clair et net des Français, et ils pourront choisir en fonction du projet. C'est son envie. Est-ce que ça va se passer comme ça ou pas ? Je ne sais pas. Attal, si on compare Philippe et Attal, Attal, elle le trouve trop jeune en politique. Mm-hmm. Et trop jeune tout court. Plus, elle estime que là où il est aujourd'hui, à Matignon...
Ce serait pas un peu cougar.
en tout cas, elle estime qu'il n'a pas fait ses preuves, il n'a pas vraiment d'histoire politique. Il est plutôt efficace, il sent l'opinion, il sent les sujets qui vont porter sur lesquels il faut se positionner, avoir une position claire. Après, est-ce que l'exercice du pouvoir à Matignon ne va pas l'user ? Ça reste quand même Premier ministre de Emmanuel Macron. Il y a une superposition quand même entre les deux. Je veux dire, clairement, Attal est le dauphin de Macron, paraît aujourd'hui le dauphin de Macron. Aujourd'hui, Philippe n'est pas le dauphin d'Emmanuel Macron. Il peut être le successeur, mais pas le dauphin. Et je pense qu'il y a deux mots qui vont être très importants. C'est qui sera le dauphin d'Emmanuel Macron et qui sera le successeur. Mmh. Et là, ça va être deux cas différents.
Pierre, oui.
Je crois qu'il y a pour Édouard Philippe un atout qu'on ne mesure peut-être pas aujourd'hui, mais qui sera peut-être plus visible à l'approche de l'élection présidentielle. C'est le fait d'être le seul de tous à avoir son propre parti.
Ouais.
Alors, c'est une structure jeune, récente, mais il a cette autonomie qui lui permet de créer... presque subliminalement, une différence avec Emmanuel Macron, une prise de distance. Il n'est pas Renaissance, il est Horizon. Vous me direz, c'est proche. Mais c'est quand même une structure qui lui permet de prendre assez largement une autonomie. Ni Bruno Le Maire, ni, a fortiori, l'actuel Premier ministre, ni les autres, n'ont cette autonomie-là. Le point de faiblesse, à mon avis, c'est quand même, et il le résume un petit peu à sa façon dans cette formule, de la social-démocratie à la démocratie libérale. C'est quand même un petit peu un problème en termes de clarté de ligne. C'est-à-dire que Édouard Philippe, héritier d'Alain Juppé, a toujours eu ce petit problème de savoir est-ce qu'il était de gauche, de centre-gauche, de centre-droit, sur certains sujets plutôt de la gauche. Je pense que quand même la question, et c'est pour ça que le Premier ministre actuel, lui, a choisi assez clairement depuis... Il est vraiment loin le temps du Parti Socialiste pour Gabriel Attal. Depuis quelques mois, ses prises de parole et ses prises de position sont des prises de parole qui sont plutôt de droite affirmées et affichées. La question pour la bataille de la succession d'Emmanuel Macron, c'est de savoir où sera le curseur idéologique. J'ai le sentiment qu'Édouard Philippe, même s'il a pris des positions récemment sur le débat d'immigration, qu'il le mettait bien loin des positions de son aîné prestigieux, qui était Alain Juppé, je trouve que quand même, il a un tout petit peu de mal aujourd'hui à situer idéologiquement son curseur, et c'est probablement un de ses points de faiblesse, peut-être.
Alors, son point de faiblesse, c'est peut-être aussi le prochain de nos débats, c'est-à-dire que le retour, finalement, de la rivalité entre la droite et la gauche, on sait que depuis 2017, on vit sur progressiste et puis, on va dire, souverainiste, nationaliste, sur ce schéma-là, schéma qui est quand même très artificiel, que le président de la République sortant ou actuel a voulu imposer, qui convient bien à Mme Le Pen, puisque finalement, ça l'a fait progresser considérablement dans les sondages, et puis d'une élection à l'autre aussi. Mais, Bellamy y croit, Glucksmann n'est pas loin d'y croire non plus. On va les écouter.
Comment expliquez-vous cette dynamique qui vous est favorable ?
Je crois que le fait qu'on parle d'Europe, déjà qu'on parle du sujet de cette élection, et qu'on ait un cap clair, ça suscite... une forme d'entrain.
Mais en 2017, comme en 2022, l'histoire était cousue de fil blanc. On voudrait nous imposer un ralliement obligatoire à Emmanuel Macron alors qu'il était déjà élu. Et il était élu pourquoi ? Parce que tout le travail d'Emmanuel Macron pendant des années a été de faire monter le RN pour l'avoir pour seul adversaire. Et c'est le travail qu'il continue à faire. C'est l'histoire qu'il voudrait nous raconter. Et cette histoire-là, elle est fausse. Le vrai clivage aujourd'hui, dans nos démocraties européennes, il est entre la droite et la gauche. Et ce clivage-là, c'est celui que nous avons le devoir de reconstruire.
Chacun voit son intérêt à sa porte. C'est son intérêt aussi.
Oui, de dire ça.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je crois qu'en fait, c'est assez compliqué, parce que dire qu'en fait, c'est un retour de la droite et de la gauche, quand on fait d'un côté 7% et de l'autre 12%, même si c'est bien, même si Glucksmann perce dans les sondages, et même s'il progresse un petit peu de façon étonnante, où personne ne l'avait véritablement attendu, au fond, ça représente 20% des électeurs. Et derrière, il y a d'autres droites et d'autres gauches. Donc en fait, arriver à dire c'est le retour de la droite et de la gauche à partir de 20% des électeurs, moi, j'ai tendance à trouver que c'est un petit peu surfait, que c'est pas évident. Et puis je trouve qu'en fait, dans la vie aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué, sans parler forcément de souverainisme d'un côté, de démocratie libérale de l'autre. Tous les sujets, en fait, auxquels on est confrontés aujourd'hui, que ce soit la transition écologique, que ce soit l'immigration, que ce soit la fin de vie aujourd'hui, que ce soit l'éducation, que ce soit la délinquance, en fait, je pense que c'est beaucoup plus difficile qu'avant d'avoir des gens qu'on peut rattacher à un bloc de gauche, en disant, ah ben oui, sur l'éducation, il pense ça, donc il est de gauche. Pareil, sur la sécurité, ah ben oui, il pense ça, donc forcément, il est de droite. Tout ça, c'est plus vrai, en fait. Quand on en discute entre amis, quand on voit, on se rend compte que la société est traversée de courants très différents et que quelqu'un peut être très conservateur sur l'éducation et beaucoup moins sur une thématique sur l'écologie et inversement sur d'autres sujets. Donc, le retour droite-gauche, un peu comme on l'a entendu jusqu'à Emmanuel Macron, moi, je le sens pas, mais je peux me tromper.
Vous êtes d'accord, Pierre ?
Je crois qu'il y a, dans ce qui émerge avec ces deux performances et les questions qu'on se pose sur les scores du PS et de LR, il y a une question qui ressemble un petit peu, si on fait le parallèle entre les européennes et la prochaine présidentielle, c'est un peu les essais de Formule 1, d'un Grand Prix de Formule 1 et le Grand Prix lui-même. Ces deux parties ont besoin de retrouver des positions proches des pôles positions. Elles ne peuvent pas prétendre à être en première ligne, mais il faut se rapprocher des premières lignes. Et le problème aujourd'hui, le clivage gauche-droite, en réalité, il existe aujourd'hui de manière extrêmement radicalisée et polarisée avec la France insoumise et avec le Rassemblement national. Et ce que veulent Bellamy et Glucksmann, c'est rétablir une forme de clivage, entre guillemets, plus raisonnable et qui corresponde plus à ce qu'on a connu pendant des décennies sous la Ve République. Ce n'est pas chose facile, parce que vous l'avez dit, le problème, c'est qu'il pèse aujourd'hui relativement peu. Vous imaginez, quand on dit aujourd'hui que 7 et 13, c'est bien, c'est mieux que le pourcentage de la précédente présidentielle avec les scores d'Anne Hidalgo et de Valérie Pécresse. Mais vous voyez d'où on vient, quoi. Donc, pour moi, c'est une question de survie, ce qui est en train de se passer pour elle. C'est-à-dire qu'on voit très bien que politiquement, un Bellamy qui se rapprocherait des 5% ou un PS encore à moins de 10%, c'est encore prendre le risque d'avoir, lors de la prochaine présidentielle pour eux, une forme de rôle de figuration, quoi. C'est ça l'enjeu. Donc, au-delà du clivage, il y a la question de l'existence politique. Et c'est en cela que les européennes sont pourtant secondaires des élections très importantes.
Jacques Olivier, d'accord avec ça ?
Moi, je pense qu'effectivement, les deux pôles restent encore très faibles, ça, il n'y a pas de doute. Moi, je me pose finalement plus de questions que je pourrais apporter de réponses. Est-ce que les Français veulent aller jusqu'au bout de ce qu'on pressent, c'est-à-dire tester un des deux mouvements extrêmes, et plutôt
le
Rassemblement national ? C'est une question que je me pose. Et la deuxième, je ne sais pas si ce que vous ressentez, c'est que là, on est en train de parler d'une droite qui pèse effectivement pas lourd et de socialistes qui pèsent pas lourd non plus. Et on n'arrive pas à identifier quel est leur projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est éventuellement par défaut, mais je serais incapable de dire quel est le projet politique du PS. Et quand les Républicains avancent leur projet politique, soit ils se font happer par le côté libéral, où on leur dit, mais dis donc, Macron
il sait faire
déjà, ou bien quand ils sont très sécuritaires, on dit, c'est une copie du Rassemblement national. Pour moi, c'est assez compliqué de voir, avec ces deux éléments que j'ai mis en avant, quel peut être l'avenir, finalement, de cette opposition classique socialiste versus républicain.
Donc, en fait, le rêve de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, c'est que les LR...
C'est qu'il n'y ait plus rien à leur droite.
Disparaissent entre eux et Macron. Les européennes.
Ils ont deux objectifs pour les européennes, c'est que ni les Républicains, ni Reconquête, le parti d'Éric Zemmour...
Qui est bien mal en point aussi.
Bien mal en point aussi, n'arrive à faire élire des députés. Ce qui est quand même... Moi, je prends le problème à l'envers. Je trouve que c'est intéressant, parce que Bardella est à 30%, 30-31%, et LR est toujours à 6, 7, presque 8%. C'est-à-dire que malgré la percée du RN, il y a quand même des électeurs de droite... Est-ce qu'ils seront là à la fin ou pas ? C'est la grande question. Hein. Affirment aux sondeurs, aux instituts, qu'ils vont continuer à voter Bellamy. Ça m'interroge. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, le RN va devoir gérer potentiellement un parti qui existe toujours, qui n'est pas très loin de ses idées au niveau sécuritaire et immigration. S'il y a besoin d'une coalition électorale avec une dissolution et des législatives anticipées, peut-être qu'il y a l'égard existera aussi. Dans les, je crois que dans les scénarios testés de dissolution, LR a quand même des députés encore, la capacité de faire un groupe. Donc moi, ça m'interroge. Même si Bardella est haut, LR n'est pas testé à 4 ou 5%, c'est-à-dire sous le seuil des 5% qui permet d'avoir des élus. Pour Glucksmann, je pense que le problème est totalement différent. Ah. Ni à l'inverse, ni au contraire. C'est qu'en fait, les turbulences de la NUPES qui se répercutent sur les européennes.
Vous pensez que c'est davantage ça que la sanction de Macron ?
Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a deux événements qui font émerger Glucksmann malgré lui, parce que c'est pas non plus, c'est pas un candidat extraordinaire. Hein. La loi immigration, qui a profondément sûrement heurté une partie de l'électorat de centre-gauche, qui du coup se retrouve ni dans Attal, puisque Attal vire à droite et assume d'être de droite, ne se retrouve jamais non plus dans Mélenchon. Et il y a aussi l'attaque massive du Hamas du 7 octobre dernier sur Israël. Et la position de LFI par rapport à cet événement international, qui a donc bouleversé une partie de la gauche. Et ces deux événements-là, qui sont plus ou moins, plus ou moins proches l'année dernière, permettent en tout cas une respiration à cette gauche social-démocrate qui jusqu'à présent n'avait qu'une figure, Bernard Cazeneuve, qui n'avait réellement aucune chance ni aucune emprise de popularité quelque part. Est-ce que c'est éphémère ? Est-ce que ça sera un effet géant vert comme Yannick Jadot et qui va s'écrouler après la présidentielle ? Ce qui arrive souvent, finalement, à gauche, quand il y a une percée aux européennes, ça ne se concrétise jamais non plus plus tard. Voilà, donc il y a deux problématiques différentes. Comment Bellamy arrive à survivre malgré les 30% de Bardella ? Est-ce que Glucksmann arrivera à organiser, en tout cas, une percée du PS pour rebattre les cartes à gauche ? Il y a vraiment deux ambiances différentes qui viennent s'entrechoquer parce que ça les arrange, effectivement, comme vous dites, d'avoir un discours du retour droite-gauche. Mais il y a vraiment deux histoires différentes qui sont en train de s'écrire.
Vous êtes d'accord, ça, avec l'analyse ?
Je partage parce que, en fait, je pense que l'avantage, si on compare vraiment les deux positions de ces deux partis en déclin, il y en a quand même un qui a la redoutable difficulté d'affronter un parti, le RN, extrêmement puissant aujourd'hui, sociologiquement, politiquement, uni autour d'un chef non contesté. Alors, on me dira, on parle toujours de Bardella, mais enfin, le chef reste le chef, et qui aujourd'hui est en position de domination au point que, quand vous regardez les électorats LR et RN, ils pensent très souvent maintenant la même chose sur énormément de sujets. Mmh. Donc, c'est très difficile de créer sa différence. Alors que je trouve que du côté du PS, compte tenu du sujet européen qui recrée une forme de clivage avec LFI, compte tenu du fait qu'il y a quand même beaucoup de socialistes aujourd'hui, sympathisants électeurs, qui ne supportent plus les positions de LFI et notamment de son leader sur toute une série de questions aussi tragiques soient-elles en plus ces derniers mois, qu'à mon avis, l'espace est un tout petit peu plus ouvert. Et donc, peut-être que la différence qu'on voit aujourd'hui entre le 7 et le 13, ne faisons pas des sondages, des éléments de pronostic, mais ça peut expliquer le fait qu'il y ait un tout petit peu plus d'espace politique pour une alternative à gauche, alors que de l'autre côté, je trouve que l'enjeu pour LR est beaucoup plus difficile à résoudre.
Glucksmann pourrait y prendre goût et essayer de prendre le Parti Socialiste à la fin de l'année ?
Oula, c'est pas gagné quand même, parce que le Parti Socialiste, Olivier Faure, a l'air de vraiment le tenir, le garder
pour l'instant. Peut-être le mollusque sur le rocher.
Il a réussi, alors qu'il avait une opposition quand même très difficile, que son congrès c'est très difficile, qu'on a presque parlé d'élections un petit peu, pas arrangées, mais enfin pas loin à l'époque. Donc franchement, le laisser à Glucksmann aujourd'hui, j'y crois pas beaucoup.
Ouais. Alors, c'est l'heure fatidique des coups de cœur et des coups de griffe, si vous voulez bien. Jacques-Olivier,
alors moi j'ai
avec le coup de griffe, on commence toujours par le coup de griffe.
Moi, il est coup de cœur, coup de griffe, d'une certaine manière. Disons que je me réjouis à l'idée, si ça se confirme, que le gouvernement s'engage dans une nouvelle négociation sur l'assurance chômage.
Ah.
Alors, je dis un peu coup de griffe parce qu'on sera à la troisième en quelques années, en cinq ans, quelque chose comme ça. Donc, c'est bien la preuve qu'on n'a pas pu bien jusque-là résoudre le problème. Et coup de cœur, parce que je reste persuadé, et comme je disais tout à l'heure, que dans la mesure où dans un pays où on paye des impôts de façon délirante pour régler l'avenir du pays, ça passera pas par les impôts. Je crois que notre personnel politique est incapable d'engager les réformes hyper douloureuses pour faire des économies.
que je pense qu'effectivement, la solution qui me... on peut s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger. La meilleure solution aujourd'hui pour rétablir la compétitivité de la France et en partie nos finances publiques, c'est de recréer de l'activité. Et je pense que tout est
c'est bon. C'est pas de faire des économies, en fait, alors. C'est de relancer la croissance.
Si, moi, mais j'en rêve. Mais à côté de ça, ça fait... Enfin, on en parlait avant d'entrer sur ce plateau. C'est que depuis 1974, on n'a pas eu de budget à l'équilibre. Et puis, je crois que personne n'a démontré vraiment, à de droite comme de gauche, ou ni de droite ni de gauche, de capacité à faire des économies. Le nombre de fonctionnaires a encore augmenté de 60 ou 65 000 personnes l'an dernier. Donc, moi, je me dis qu'on n'y arrivera pas, que c'est compliqué. Donc, autant mettre tout en œuvre, pour que ce pays redevienne plus compétitif, plus innovant, on travaille plus, et puis voilà, ça ne peut pas être mauvais.
Mais vous avez un contexte international qui n'est pas tellement à la croissance. Vous avez un contre-exemple pour faire des économies. Vous regardez ce qui s'est fait dans les pays scandinaves et au Canada dans les années 90. Ils ont posé le problème, ils ont tout mis à plat, ils ont dit voilà les priorités qui doivent être, je dirais, financées par l'État et celles qui ne doivent plus l'être. Et ils ont réussi à remonter la pente.
Alors, c'était dans les années 90. Je ne suis pas sûr qu'ils le feraient 30 ans plus tard.
Ouais.
Et deux, c'est des pays qui ont la culture du consensus. C'est des pays pragmatiques. Moi, j'ai quand même l'impression qu'en France, ouais. On n'a pas cet état d'esprit. Donc, oui, j'ai envie de dire, il y a des endroits où on sait où on peut faire des économies. Simplement, les mettre en œuvre, ça nécessite aujourd'hui un courage politique. Ni la droite, ni la gauche n'a réellement réussi à démontrer, en tout cas, ces dernières années. Mais bon, peut-être que Pierre, on sait beaucoup plus... que moi là-dessus, mais...
Pierre, alors, vous avez la parole, puisqu'on vous la passe.
Le coup de cœur et le coup de griffe, moi, en fait, sont assez liés, la semaine dernière, oui. Pour des raisons qui n'ont rien à voir, enfin, c'est pur hasard, mais l'ancienne Premier ministre Elisabeth Borne a fait un exercice intéressant devant des étudiants à Brest, où elle est revenue sur sa fonction de Premier ministre et les conclusions, c'est une sorte de débriefing que j'ai trouvé assez cash, assez sincère, où elle s'est un petit peu lâchée, avec l'élégance habituelle de l'ancienne Premier ministre. C'est-à-dire qu'elle met quand même en cause la répartition du rôle entre le président et le Premier ministre dans les institutions de la Ve République ces dernières années. Elle dit quand même des choses qui sont assez claires. Elle dit le suractivisme ou l'hyperactivisme du président de la République, elle ne pense probablement pas ni à François Hollande ni à Nicolas Sarkozy, mais au sien, entre guillemets. Et elle dit que ça pose quand même une petite question sur sa capacité à être le chef de l'État, celui qui rassemble. Ensuite, elle dit « Je n'arrive pas à trouver dans la Constitution un article qui permet de justifier qu'il prenne position sur les déserts médicaux, sur l'avenir du lycée professionnel, et le troisième exemple, je crois que c'est sur la transition écologique. » Et elle conclut en disant « Au fond, on a quand même besoin, dans les années qui viennent, de se poser la question d'une reclarification du rôle de chacun des deux membres de l'exécutif. » Je trouvais que c'était un exercice assez... Alors évidemment, c'est plus facile de le dire après que pendant,
bien sûr,
mais ça dit quand même quelque chose sur ce trouble qui s'est installé depuis l'instauration du quinquennat dans le rôle respectif des deux personnages de l'exécutif. Et mon coup de griffe est lié, c'est l'exercice. Alors, on a appelé ça une expérimentation, c'est quand même très étrange. 5 semaines pour voir un Premier ministre devant l'Assemblée, seul à répondre aux questions pendant 45 minutes.
Ah oui,
et là, on a assisté à un premier exercice la semaine dernière. Et ce qui m'a le plus frappé, alors, quand on regarde les 45 minutes, c'est un espèce de jeu de rôle où évidemment les opposants sont ravis parce qu'ils peuvent y aller dardard sur le Premier ministre. Mais ce qui est très frappant, c'est l'image initiale où vous voyez les bancs de l'Assemblée totalement clairsemés. C'est-à-dire même le groupe de Renaissance n'est pas 100% présent pour assister à le premier exercice d'un Premier ministre qui tente ce jeu qui n'est pas simple. Hein. Mmh. Et sur les bancs des ministres, il n'y a personne. Le gouvernement a disparu. Donc l'image en termes de communication, moi c'est ça qui m'intéresse,
désastreux.
C'est qu'on a l'impression que le Premier ministre, est-ce que c'est lui qui a décidé avec l'accord du bureau de l'Assemblée, s'accorde un droit, mais ça renvoie au problème précédent. C'est-à-dire que le Premier ministre a tellement le sentiment de ne plus exister avec un président aussi actif que le nouveau Premier ministre, lui, a besoin d'exister, lui a besoin de préparer une prochaine échéance présidentielle, le cas échéant. Il a besoin d'être un deuxième leader, et non pas simplement un collaborateur du président de la République. Et j'ai trouvé cette image d'autant plus saisissante, ces bancs clairsemés, alors que ça devait être un événement. D'ailleurs, vos confrères de la chaîne parlementaire disent que c'est un événement majeur. Et on arrive dans l'Assemblée, il n'y a quasiment personne. Ni même les ministres qui ne sont même pas là. Est-ce qu'on leur a demandé de ne pas venir ? Est-ce qu'ils ont décidé de ne pas venir ? Pour moi, ça, c'est quelque chose qui mériterait examen. Et alors, vous comparez, puisque ça a été la référence, on veut faire l'exercice, nous dit-on, qui permet de faire la même chose que font les Britanniques avec la fameuse et célèbre séance des questions au Premier ministre. Et j'ai regardé sur Internet les images de ces séances-là, et là, je vous assure, il n'y a pas une place de libre. Tout le monde est là, tous les ministres, tous les parlementaires sont là, d'opposition et de majorité, et c'est une vraie confrontation. Et donc, je pense que l'expérimentation, je ne serais pas surpris qu'au bout de 5 semaines, ça s'arrête. Parce que, probablement, qu'on finira par créer les conditions d'un certain malaise. Et d'ailleurs, les 5 premières questions, ça ne vous surprendra pas, les 4 ou 5 premières questions qui sont posées au Premier ministre, ce sont des questions qui auraient pu être un espace possible pour que Bruno Le Maire puisse y répondre.
Oui.
Puisqu'elles concernent tous des sujets économiques et sociaux. Voilà.
Vous êtes d'accord avec ça, Christine ?
Écoutez, oui,
vous avez suivi ça avec beaucoup d'intérêt, vous aussi.
Ah oui, franchement, c'est vrai que la solitude du Premier ministre, sans ministre, et devant une assemblée clairsemée, on l'a tous relevé, ça a été écrit dans tous les papiers. Et effectivement, est-ce que ça peut durer ? Je pense que ça mérite de s'y réintéresser. C'est pas sûr.
Et au-delà, c'est toute la réflexion, effectivement, sur le fonctionnement des institutions. Je crois que c'est Georges Pompidou qui conclut le Nœud gordien, son livre, un de ses livres. En disant les institutions ne sont que ce que ceux qui les exercent en font. Et là, en l'occurrence, il n'était pas obligé de répondre seul.
Non, mais
c'est courageux, au gouvernement. Ouais. Courageux, mais
il a bien fait.
On sait qu'il va au charbon.
Voilà.
Il aime bien ça.
L'exercice accompli par lui-même, effectivement, il était plutôt Alain, dynamique, pertinent. Mais il n'empêche qu'on a le sentiment d'une grande solitude en face et que. Pour le téléspectateur, ou pour le français, ou pour le citoyen, se dire qu'en fait, on est effectivement dirigé par un président de la République très haut, et puis une seule personne...
Très haut, mais qui s'occupe aussi des affaires d'un secrétaire d'État. Quoi.
Voilà, absolument. Et du Premier ministre, là, c'est effectivement, ça pose question.
Paul, votre coup de griffe et votre coup de cœur.
Alors, mon coup de griffe, c'est Léon Desfontaines.
Dont on parle peu, finalement.
On parle peu, la tête de liste du PCF pour les élections européennes. Jeune, hein.
Crédité de...
Alors là, je n'ai pas les chiffres en
tête. Autour de 3%, 3,5%.
Même âge que Jordan Bardella.
Donc moins de 30 ans.
Moins de 30 ans. Et qui a déclaré qu'il estimait que le programme économique de Marine Le Pen était identique à celui d'Emmanuel Macron, ce matin à la radio, je crois, ou à la télé. Et donc je pense qu'il ne faut pas dire n'importe quoi en politique, même si c'est pour faire plaisir à ses électeurs ou se faire plaisir à soi-même. Ça, c'est mon coup de griffe. Et mon coup de cœur, une autre figure de gauche, c'est pour Jérôme Gage.
Un soutien. Député socialiste de l'Essonne.
Un excellent député socialiste, quand même, il faut le dire, qui a été chahuté hier à un rassemblement en hommage aux otages du Hamas et qui a été lourdement chahuté à cause des prises de position de la LFI sur ce sujet-là.
Ah, il faut dire que Jérôme Gage est juif,
qui est
très engagé, évidemment. Et pourquoi ?
Et qu'il n'a jamais émis aucun doute sur sa lutte contre l'antisémitisme.
Bien sûr. Christine ?
Alors, moi, je me suis moins intéressée au sommet de l'État pour les coups de cœur et coups de griffe qu'à des élus locaux. On a eu deux élus, en fait, qui ont été mis en valeur ce week-end. Je vais commencer par le coup de cœur, en fait. C'est le maire de Viry-Châtillon. Viry-Châtillon, c'est cette ville, en fait, où un collégien a été tabassé à mort. Et au moment où il apprend le décès, le maire de Viry-Châtillon prend la parole et il est bouleversant de simplicité. Il n'y a pas de langue de bois, il est au bord des larmes, il est bouleversé. Et il incite ses concitoyens à essayer de reprendre la main, en fait, sur l'éducation des enfants, sur essayer de vraiment prendre à bras le corps tous les problèmes qui sont liés à l'école. Et il est bouleversé et ça dure 5-6 minutes et il est au bord des larmes. Et je trouve que c'est assez rare en politique.
C'est rare qu'un élu se montre.
Et franchement, je trouve que c'était vraiment touchant et émouvant. Mmh. Et alors, le coup de griffe, c'est plutôt pour la maire de Avallon. Maire d'Avallon, alors l'enquête dira ce qui va se passer,
mais Avallon, je me rappelle Avallon. C'est Samara, ça.
Non, Avallon, non. Samara, c'est à Montpellier, ça c'est autre chose. Mais Avallon, en fait, c'est le trafic de drogue. Alors on va voir, c'est une opération.
La mer, oui.
Place XXL, XXL de Darmanin qui se déroule dans une petite ville moyenne où il y a des gros trafics de drogue. Alors encore une fois, l'enquête dira et on verra ce qui va se passer. Mais il se trouve que dans des dépendances attenantes à la mer, on a retrouvé 60 kilos de cannabis, pardon.
70 kilos de cannabis.
Voilà, 1 kilo de cocaïne, je crois 6 lingots d'or, 7000 euros en petite coupure. Et donc, pour l'instant, elle est en garde à vue. On ne sait pas. Ses frères sont plus soupçonnés qu'elle. Mais on se dit quand même que des élus, entre celui qui est vraiment bouleversé, qui veut changer notre vie et qui vraiment s'implique, Et une histoire comme celle-là, même si peut-être qu'elle sera blanchie de cette histoire-là, c'est le cas de le dire, c'est quand même la politique avec le grand écart. Et je trouve que là, on peut se permettre un coup de griffe sur la mère d'Avalon.
Vous voulez dire que c'est ses enfants, peut-être, qui ont placé
non,
tout ça dans
frères.
Son bureau ?
Elle vit avec ses frères.
Ses frères, oui. Alors, dans le même temps, c'est là où on voit que l'autorité est quand même pas mal mise à mal. Une magistrate, je crois, qui a été poursuivie pour...
En Corse, oui.
Donc l'autorité aujourd'hui est considérablement...
Il y a du travail depuis l'école et puis peut-être très haut dans la société aussi, et même chez les adultes.
Alors puisque vous parlez des élus locaux, Pierre, est-ce que vous êtes favorable au fait qu'on revienne sur le cumul des mandats ?
Oui, je pense que c'est la perte d'efficacité et de légitimité des élus, on en connaît beaucoup de raisons, mais l'une des explications... c'est la perte de lien avec le tissu local.
Ouais.
Et je pense que cette évolution ces dernières années, qui participe d'ailleurs d'une évolution générale de sentiment de culpabilité qu'ont les politiques en essayant d'aller dans le sens du vent, celle-là a été particulièrement nocive du point de vue de la stabilité du système. En réalité, les Français, c'est vrai que dans les enquêtes d'opinion, il y a quelques années, je me souviens, avaient tendance à soupçonner les élus de vouloir cumuler, cumuler en nombre d'années de mandat et cumuler en termes de postes. Mais sur ce sujet-là du local, je pense que ça ne serait pas une mauvaise idée que de revenir là-dessus.
Quelle est la position du Rassemblement national là-dessus ?
Ils sont plutôt pour le retour du cumul.
Ouais.
Alors, ils essayent de rester dans le vent. Hein. C'est-à-dire que c'est plutôt une position en fonction des sondages. Mmh. Est-ce qu'il faut une limite ou pas à la taille de la commune pour pouvoir cumuler ? Je pense que c'est aussi très important pour une raison un peu intrinsèque à la politique, c'est que est-ce que ça favoriserait pas l'engagement politique ?
Ouais.
Qu'on voit des députés aujourd'hui qui peuvent partir, même s'ils ont été très bons, qui peuvent être emportés par une vague dans leur territoire, parce qu'en fait, ce sont des députés un peu déconnectés du terrain local. Il y a quand même une crise de la vocation politique au niveau des maires. On voit le nombre de démissions, le nombre de... Et donc, en fait... Est-ce que lier un peu différents mandats d'élus permettrait pas à des gens de s'investir un peu mieux en politique, plus longtemps parfois aussi, parce que parfois le temps long, même si on reprochait aux gens d'être maire pendant 15 ans ou député pendant 20 ans, le temps long est quand même un temps important en politique. Et du coup, je pense que ce serait une bonne idée, effectivement.
Je vous remercie tous les quatre, Pierre Giacometti, Jacques-Olivier Martin, Christine Ducrot, Paul Lobaché, merci de vos éclairages, merci de vos commentaires sur cette actualité qui est toujours... Eh bien, qui va monter en puissance avec les élections européennes et puis peut-être avec notre sujet d'ouverture, celui de cette motion de censure qui plane sur l'Assemblée nationale et contre l'exécutif. Ça sera intéressant de savoir ce qui se passe. Si, en tous les cas, si elle est déposée, il y aura du sport.